Bonjour à tous, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui dimanche de la quinquagésime, dont nous allons entrer dans le creux du carême qui s'avance à grands pas. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous disons cette messe pour les enfants avortés, ceux qui se repentent d'avoir fait ces avortements, qu'ils soient vivants et les morts, que ceux qui sont en train peut-être de payer la note aussi de ce qui est un grand crime d'aujourd'hui. Donc le Seigneur pardonne même cela à ceux qui se repentent et qui se tournent vers lui, vers sa miséricorde. Jésus dit que dans un message qu'il a dit à Sœur Faustine Kowalska, cette petite évidemment polonaise qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II, le plus grand péché, c'est de ne plus apercevoir ma miséricorde. Vous voyez, c'est quand on est enfermé dans les péchés et loin de, dans l'égarement que procure le manque de charité dont parle saint Paul aujourd'hui en abondance, cette magnifique épître de Paul, évidemment, qui était extraordinaire et qui s'adresse aux Corinthiens ou aux Corinthes. On disait autrefois corinthisé, c'était une vie de dissolution et donc la charité est indispensable et ceux qui manquent de charité finissent par s'enfermer dans un point de vue qui n'est pas le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme qui s'enferme dans son péché, il s'égare et au moment où Dieu réclame la charité à l'égard de lui-même, puisque Dieu lui-même, c'est une connivence qui a entre une âme et son Dieu, la charité de Dieu n'apparaît plus dans certaines âmes. Et Jésus dit que c'est le grand péché. Pourquoi c'est le grand péché? Parce que c'est le grand péché qui condamne l'homme à la désespérance, que le péché paraît si grand que l'homme ne se sent plus jugé par Dieu, mais devant l'énormité de sa faute, et se juge lui-même. Et il se juge sans miséricorde, puisque c'est la justice, sa propre justice qu'il applique aux autres, qu'il s'applique à lui-même. Vous voyez, très important donc de méditer sur cette merveilleuse épître aux Corinthiens où saint Paul parle dans tous les sens de la charité. Sa patience, elle est serviable, elle n'est pas jalouse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il nous est dit encore par saint Paul, la charité ne passera jamais, car elle demeure au ciel. C'est le principe même de l'amour de Dieu qui nous a mis sur terre pour nous aimer et nous faire aimer de lui. Et nous aimer Dieu, et Dieu nous aime évidemment de toute évidence. Et les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, mais la charité, elle, ne passera pas. Donc c'est l'invitation à se comporter de manière très charitable et très miséricordieuse à l'égard de notre prochain, pour ne pas perdre de vue que nous sommes tous pécheurs et que la miséricorde de Dieu est toujours là. Elle est là, incarnée dans le Christ, qui paye un grand prix pour que cette miséricorde puisse être agréable à Dieu et qu'elle puisse être possible par le Christ, puisque ça a été la volonté de Dieu. Jésus y a toujours dit, je fais la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, c'était d'envoyer son Fils unique, qui est venu souffrir pour racheter le péché de l'humanité. Quand on n'aperçoit plus cette charité du Christ, on ne peut plus percevoir sa miséricorde, et c'est effrayant pour des gens qui ont quand même la foi, de ne plus accepter l'augure de cette miséricorde et de ne plus mesurer ce qu'a été le sacrifice du Christ. Et ce sacrifice qui a été immense perdure dans la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, à cause de son amour, est prêt à toujours pardonner à une âme repentante. Donc en une 5 minutes, on peut retrouver une fraction de la grâce de Dieu qui permet de faire le chemin vers Dieu. Donc c'est très important que nous soyons conscients de l'importance de l'amour du prochain, la bienveillance toujours et partout, c'est très important. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc que nous avons aujourd'hui, au chapitre 18, nous avons quand même cette annonce du Christ qui dit la vérité à ses disciples, qu'il va être condamné, flagellé, qu'on le couvrira de crachats, ainsi que les prophètes l'ont annoncé, évidemment, et le serviteur souffrant dont il est parlé, c'est celui-là qui est le Messie. Et Jésus annonce cela à ses disciples. Et le troisième, je récitera, mais eux ne comprirent rien à cela. Vous ne pouvez pas imaginer que le Christ subirait un tel sort parce que il voyait encore un roi qui serait un dominateur des choses de la terre selon les principes du monde, et donc ils n'ont pas compris jusqu'au bout quel était le message et la manière dont le Christ allait sauver des âmes, non pas pour ce monde ici, établir un royaume, non pas pour ce monde ici, mais Jésus a toujours dit, mon royaume n'est pas de ce monde, donc c'est pour la vie éternelle. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous sommes faits pour la vie éternelle. C'est le principe de la révélation juive et la révélation ensuite chrétienne. C'est que le Seigneur nous dit, vous n'êtes que de passage ici, mais vous êtes faits pour la vie éternelle, dans une vie amoureuse avec Dieu. Et Saint Paul nous dit que à ce moment-là, nous comprendrons Dieu comme il nous comprend, c'est-à-dire nous verrons Dieu face à face. Ce que aujourd'hui nous ne voyons que travers un miroir, et le miroir le miroir de la conscience humaine, il est en reflet éclairé par le prophétisme, par la révélation, par Jésus-Christ lui-même, et aussi par la grâce sanctifiante. Lorsque on reçoit la grâce sanctifiante, nous en parlions tout à l'heure, la grâce sanctifiante, c'est très important. Mais un cœur qui ne reçoit pas la grâce sanctifiante, c'est un cœur où la grâce du Christ ne peut pas s'installer parce que le cœur, justement, se détourne de la miséricorde. La miséricorde de Dieu ne s'applique pas à ceux qui n'ont pas la miséricorde au prochain, ceux qui ne vivent pas la charité. Donc l'enfermement est terrible, et c'est cet enfermement qui produit la perte des âmes, même parfois des choses, des gens qui ont été appelés, puisque saint Paul nous dit, si vous avez le don de la prophétie, si vous avez le don de la parole, si vous, tous ces dons qui sont donnés par l'Esprit Saint, eh bien, même s'ils sont donnés, des âmes peuvent encore déroger, et justement parce que la foi est là, la balance de la justice que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes, loin de la miséricorde de Dieu, certains finissent par ne plus, même avec la foi, recourir à la miséricorde de Dieu. Et Jésus dit, dans ma Laborta, je m'excuse, je vais encore en parler d'ailleurs, Jésus dit, le plus grand péché, c'est de ne plus percevoir cette miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'on a stérilisé en nous la vision du plan de Dieu sur nous, et que on ne comprend pas l'amour du Christ. Si on comprend pas cet amour du Christ, c'est une chose très grave. Ça veut dire qu'on ne comprend pas la relation à Dieu, le message du Christ et la mission que le Christ est venu accomplir sur terre à grand prix. Lui qui est resté le pur, eh bien, ne peut pas s'installer, violenter les âmes pour imposer sa miséricorde. Il la propose, mais certaines âmes ne l'aperçoivent pas. C'est donc une chose très grave. Il faut veiller nous-mêmes à ne pas nous juger indignes de la miséricorde de Dieu. Parce que cette miséricorde de Dieu, elle subit un chemin, le chemin de la conversion obligatoire, du repentir obligatoire, qui établit en nous le secours de Jésus lui-même, le secours du Saint-Esprit, et la bienveillance de Dieu à l'égard de ceux qui se repentent. Dieu est patient, c'est ce qu'il dit dans saint Paul aujourd'hui, la charité de Dieu elle-même est patiente. Donc il faut faire très attention à tout cela qui est résumé dans ce problème de la charité. Et Jésus annonce sa passion, ils ne le comprennent pas, mais en s'approchant de Jéricho, il trouve un aveugle à qui il donne la vue. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'avance vers lui. Les apôtres et les gens lui disent « Non, non, ne dérange pas. » Jésus s'arrête, comme si la charité, évidemment, l'immense charité de Jésus le fait arrêter la foule. Il se tourne vers lui, et Jésus, à celui qui a la foi, dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus ne lui dit pas « Tu es aveugle et je vais te guérir, que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est ce qui nous est donné à chaque instant dans la conscience, dans notre vie de prière. Jésus nous dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il veut que nous puissions exprimer ce qui nous fait défaut dans notre vie. Et si on manque de charité, c'est donne-moi la charité. Si on manque d'amour, Jésus, donne-moi le sens de l'amour, de la bienveillance. C'est là que nous recevons cette grâce sanctifiante qui accompagne les âmes qui sont disposées à se présenter devant Jésus et à hurler « Seigneur, aie pitié de moi ». C'est Jésus qui fait le don, mais il veut que nous exprimions aussi ce qui nous fait défaut. Jésus sait bien, et tout le monde sait que cet homme est aveugle à Jéricho, mais Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que je voie. Ta foi t'a sauvé, Seigneur, vois ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu, c'est-à-dire derrière l'expression de ce qui nous fait défaut et l'aide de la grâce du Seigneur, et nous le suivons et nous glorifions Dieu. Et nous retrouvons le sens de ce qui est donné par le Seigneur, à savoir le but de la vie, qui est de trouver Dieu et de le glorifier à travers le miroir humain où nous sont données les informations et cette lutte permanente de l'âme qui doit toujours débroussailler la terre pour que la terre devienne bonne et puisse donner de la, après la semence qui est le Christ, croître et trouver ses épis, ses fleurs pour se présenter au Seigneur les fleurs et les épis de nos vies. Donc c'est tout un travail très important. Et le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Parce que c'est toujours notre religion, je le dis souvent, c'est la religion du miracle. Vous n'en trouverez pas ailleurs. On trouve parfois des sortes de mages, des choses comme ça, ou des choses qui se passent dans certaines religions. Mais chez nous, le fondement de la foi, c'est le miracle. Parce que Jésus est venu et il n'a pas fait des miracles pour faire le mariole et le mage. Il faisait les miracles pour attester de qui il était. Et les miracles sont l'introduction de la grâce dans le monde. Dans l'espace-temps où nous vivons, nous recevons la grâce. Je voudrais relater une chose intéressante, toujours dans Marielle Torta. C'est pour ça que j'exhorte les gens à lire Marielle Torta. Je sais bien que l'Église aujourd'hui est en train de dénigrer tous ces mystiques et toutes ces apparitions, parce qu'on voudrait faire une foi raisonnable, mais il n'y a pas de raison dans le christianisme. Nous sommes très déraisonnables. Dieu lui-même est déraisonnable. Il crée l'homme avec un immense amour. L'homme déroge et la miséricorde est en quelque sorte déraisonnable, parce que le monde ne connaît pas la miséricorde, c'est Dieu qui la donne, et il donne le témoignage de la miséricorde. Quand des armées se battent, il n'y a pas de miséricorde, il faut tuer le prochain, sinon c'est soi-même qui se fait tuer. Avec Dieu, on a tous les martyrs de l'histoire, et je pense à ce petit garçon, Quentin, qui s'est fait assassiné à Lyon. Nous prions pour le repos de cette âme. Il venait de se convertir et il avait converti ses parents au point qu'il était le parrain de son propre père. Vous voyez, assassiné dans un coin par des gens qui ne connaissent pas la miséricorde, qui ne connaissent que la violence, mais ça fait un martyr aux yeux de Dieu, parce que c'était un garçon qui allait à la messe tous les dimanches, qui priait et faisait des œuvres de charité puisqu'il faisait des maraudes. Vous voyez, on a l'exemple de la charité de quelqu'un. Et la charité de quelqu'un, ben, elle s'oppose au monde parfois, et on a les martyrs du monde. Mais le miracle, c'est que à lui est promis la vie éternelle, parce qu'il avait confessé Jésus, donc il a la vie éternelle. Je voudrais relater un petit miracle intéressant, quand même, dans Maria Valtorta, au livre 5. C'est pour ça que je dis, lisons Maria Valtorta. C'est une très bonne école parce que le Christ lui-même qui dicte à Maria Valtorta, c'est 10 000 pages, donc c'est pour notre époque très important pour remettre les pendules à l'heure. Au livre 5, Jésus va dans le nord de la Galilée, dans un petit village qui s'appelle Giscala, et là, il va se recueillir sur la tombe de Hillel, qui était un grand docteur très saint d'Israël, dont même les Juifs reconnaissent aujourd'hui avec Gamaliel qu'ils ont été les deux grands docteurs de l'époque. Ils se recueillent sur cette tombe, et là ils sont attaqués par des pharisiens qui sont là aussi sur la tombe de Hillel, et les agressent, Jésus, comme ce petit Quentin a été agressé, et Ils essayent de les lapider, ils envoient des pierres. Et Jésus dit, mais je viens juste pour prier. Et oui, mais tu ne peux pas prier, c'est sacrilège, cette terre est sacrée. Voilà tout le blabla des gens de ce monde qui disent que vous êtes à l'extrême droite et si vous êtes à l'extrême gauche, on vous déclare d'extrême droite. Jésus est considéré comme étant quelqu'un qui ne mérite pas de venir même prier sur une tombe sacrée que les autres prient. On prie tous les deux pour quelque chose, mais on estime que les autres, charité faisant défaut, ne peuvent pas prier là. Vous voyez, donc ils sont privés de la grâce, ils tombent dans la violence et ils envoient des pierres. L'apôtre André reçoit un caillou sur la tête, donc ils sont obligés de battre André. Et Jésus reçoit un gros caillou sur sa main. Maria Torta dit que Jésus saigne et que sa main est très abîmée et qu'on voit l'os. Et donc il se retire et ça se passe à Giscala, un village connu d'ailleurs par évidemment l'archéologie. Et ils s'en vont, ils battent en retraite en quelque sorte devant la violence. Jésus ne veut pas répondre évidemment parce que Saint-Pierre certains voudraient bien, et Simon le Zélote qui était un Zélote voulait. Jésus dit non. Nous partons, et donc Jésus voyait des branches, la violence, et ils s'en vont dans un petit village qui s'appelle Cédès, un peu au nord encore, et là, ils n'ont pas où se loger, et une dame les aperçoit, ils disent, est-ce que vous avez un endroit où on pourrait loger? Et la dame dit, mais mon mari et mes enfants sont partis avec des brebis, mais avec plaisir, je veux bien vous donner l'hospitalité, j'ai quelques fruits et je peux vous faire manger en tout cas. Et ils s'installent là, en attendant que le mari revienne, et le mari revient, elle lui dit, je pourrais vous donner du lait en tout cas quand on aura trait les brebis au retour. Il rentre et cette dame est très gentille, elle sait pas qui est Jésus et Jésus commence à parler un peu de la non-violence, de l'amour du prochain. Elle lui dit, mais tu n'es pas Jésus de Nazareth, j'espère, si bien entendu parler de toi, c'est toi qui fais les miracles. Et on a justement un petit jeune homme sourd-muet qui est chez les voisins, il y a un petit jeune homme qui est sourd-muet, et donc on voudrait bien, on sait que tu fais des miracles. Alors elle tombe à genoux, évidemment, parce qu'elle sait, elle pense qu'il est le Messie, c'est le bruit qui court, et Jésus s'installe, et le mari revient, les enfants, ils sont ravis de trouver le Messie chez eux. Ils vont chercher, elle lui soigne la main, elle change les bandages, et elle prend une bassine, et dans cette bassine, évidemment, elle lave la main de Jésus, donc c'est encore tout frais, donc il y a du sang et de l'eau. Elle pose la bassine, et Jésus demande qu'on lui amène ce sourd-muet qui arrive, et aveugle et sourd. Muet, donc il n'a rien, et c'est une espèce de jeune homme un peu comme une sorte d'enfant très innocent. Jésus le guérit devant tout le monde. Et là, les gens arrivent, ils voient le miracle de cet enfant, évidemment, qui se met à parler tout d'un coup, et qui annonce qu'il voit et qu'il entend. Et là, les gens se précipitent, c'est drôle, pour chercher la bassine où il y a le sang de Jésus. Et ces gens se rincent les mains et les yeux et se mettent ce sang de Jésus avec l'eau qui a servi au nettoyage de la plaie. Et Jésus dit que tous ceux qui ont pris cette eau où est mon sang soient guéris. Et tout le monde est guéri. Voilà ce qui s'est passé à Cédès. Ils rendent tous gloire à Dieu, et tout le peuple en voyant cela rendit louange à Dieu. C'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Oui, c'est très important, et c'est pourquoi est une tradition que l'on trouve en Orient, le dernier calice, quand le calice est nettoyé à la troisième eau du calice, pendant la messe, le prêtre remplit le calice avec de l'eau, il peut rester un tout petit goutte de sang du Christ. Et donc, cette eau devient une eau de bénédiction. Et j'ai vu chez les Coptes, par exemple, ou chez les Syriaques, cette eau, on met une grande bassine. Et j'ai vu le patriarche des Coptes traverser sa cathédrale en aspergeant, il faisait chaud, il est vrai, en aspergeant les foules avec cette eau. C'est une tradition qui est née de ça. Et elle est donnée par Maria Torta. Passage qui n'est pas dans l'évangile, la blessure de la main de Jésus et celle de évidemment du frère de Saint-Pierre qui est blessé, et ça se passe dans le nord de la Galilée, et ensuite bon, ils continuent leur chemin. Mais c'est intéressant de voir à quel point le sang du Christ est précieux, et pourquoi je fais un reproche dans les églises d'Orient en communion au corps et au sang du Christ. Maintenant, dans certaines églises catholiques romaines, il y a des prêtres qui donnent quand même le corps et le sang du Christ, et je contreviens à ce qu'il est dit dans l'Évangile, prenez et buvez-en tous. Donc je ne veux pas faire un reproche évidemment à l'Église universelle, mais pourquoi limiter aux prêtres de la consommation du sang quand il est écrit prenez et buvez-en tous? Et donc il est bien que j'ai quelques connaissances de prêtres, et je sais que dans certaines communautés on donne le corps et le sang du Christ. C'est plus compliqué certainement pour la liturgie, pour le évidemment pendant la liturgie, mais dans les églises orientales et orthodoxes on communie moins rarement, moins fréquemment, parce que on se confesse en général avant de communier, afin que la grâce sanctifiante soit établie, que le repentir soit manifesté dans la confession, et que on fasse la pénitence qui est demandée par le prêtre. Et voilà, donc c'est très important que la grâce sanctifiante soit attachée à ce corps et à ce sang de Jésus-Christ qui a donné le sacrement sous de formes différentes, alternées, et qui manifeste quand même pendant la Sainte Liturgie que le Christ a été crucifié, que nous ne faisons pas que commémorer, faites aussi en mémoire de moi, mais au moment où le prêtre fait venir le corps du Christ, le corps dans l'hostie, et au moment où il célèbre, où il accomplit la séparation du sang du Christ de son corps, c'est le signe du sacrifice non sanglant sur les autels, mais qui rappelle, qui nous ramène à l'instant du calvaire, ce qui est le grand miracle qui traverse les siècles et le grand mystère que nous devons toujours tenir, que la messe, évidemment, comme je le dis souvent, est un sacrifice, le sacrifice de la charité immense de Dieu, la charité du Christ, qui est pour nous un témoignage de la grandeur de cette charité. Et ensuite vient le miracle de la résurrection, et Jésus dit aux pharisiens qui l'interrogent, près de Giscala d'ailleurs, un peu plus haut dans un autre village, c'est là que Jésus dit aux pharisiens qui l'agressent, dans une ville très jolie, qui est une ancienne ville où on avait le droit de se réfugier. Je me souviens plus du nom, on se réfugiait là, et ils agressent dans un très bel signe avec Jésus, et il leur dit, donne-nous un signe que tu es le Messie, et nous t'adorerons. Et Jésus leur dit, vous n'aurez d'autre signe que le signe de Jonas. C'est-à-dire, Jonas passe 3 jours dans le ventre de la baleine, et Jésus passera 3 jours dans le tombeau pour ressusciter. Et l'immense charité de Jésus conduit au miracle. Et le miracle est que nous pouvons toujours dire, et tout le peuple, en voyant cela, c'est-à-dire en croyant cela, dans notre foi, nous rendons louange à Dieu, ce que nous faisons dans nos prières et que nous faisons dans nos saintes liturgies. Non seulement contempler, vivre du mystère du Christ sur sa passion, mais aussi profiter du miracle qui est donné. Dans ce que lorsque nous sommes dans la charité dont nous parle si éloquemment saint Paul aujourd'hui, cette charité nous conduit à la grâce sanctifiante, à condition que nous demandions au Seigneur, 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 aie pitié de moi, ce qui est la prière qu'on connaît bien de l'Orient, Seigneur Jésus, Fils et Verbe de Dieu vivant, aie pitié de moi. Et Jésus lui demande à l'aveugle, que veux-tu de moi, Seigneur? Je suis un pécheur, aide-moi et donne-moi la grâce sanctifiante, et viens t'établir sur le trône de mon âme, parce que le temple de Jérusalem étant détruit, et les églises, et vivant ce que visent les églises, certaines ont été démolies, et d'autres continuent, mais ce n'est que dans le temps, pour la gloire de Dieu, mais la véritable église, elle se trouve dans le cœur de l'homme qui, vivant la charité, se met en communication dans celui qui s'installe dans son âme. Et Seigneur, que veux-tu de moi? Je veux d'abord la miséricorde que tu proposes, la reconnaître, parce que je sais d'être charitable moi-même, donc tu reçois la miséricorde. Que veux-tu de moi? Et tes péchés, je te les pardonne certainement dans ma miséricorde. Il faut te repentir, et à ce moment-là, tu recevras mon aide, car l'aide de Dieu est toujours présente à ceux qui vivent dans cette charité, car celui qui est charitable, Dieu est charitable, celui qui est miséricordieux, Dieu est miséricordieux, et celui qui à la fois est fortifié par l'aide de Dieu et la Sainte Providence. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en principe. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.